Dans ce journal, on parle de sport avec du MMA et du trail. On revient aussi sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier avant d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée. Le journal est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On l'a dit, on commence par du sport et ce projet de trail à Morée.
Oui, il y a déjà la nuit des trails avec notamment une course de 100 km du côté de l'île Sœur, c'est fin mai. Mais une grosse organisation est également en train de se dessiner. Ça se passe en métropole et ça s'appelle la Ligue Ultra. Le principe est simple, il y a 4 courses, toutes de plus de 100 km. Et en plus d'une grande finale qui, elle, est prévue à Morée. Alors en clair, les meilleurs de chaque course qui se déroule en métropole se verront offrir un billet d'avion pour la Polynésie pour participer à cette fameuse finale. Et d'autres places, une centaine au total, seront distribuées là aussi gratuitement, mais par tirage au sort, à tous ceux qui auront fini les 4 courses qualificatives. Un concept pensé par un organisateur de trail, Alexandre Piquier. C'est ce que nous raconte le sportif Samuel Zeip. Il est le représentant du projet au Fénois.
Donc ils montent une ligue ultra et en fait c'est le regroupement de plusieurs ultra trails en France avec pour but de faire une finale à Morée. Elle a été pensée à cause de la grosse machine UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est un trail hyper connu et de renommée mondiale, où il y a vraiment, c'est le rendez-vous mondial du trail de l'année. Et ils ont un gros circuit qui mange un petit peu, de manière générale, les autres Ultra Trails.
Alors la première finale de Morée, elle est prévue pour novembre 2025, le temps que tout se mette en place et surtout que les premières courses qualificatives aient lieu en France. Il y aura aussi une course test dès cette année sur l'île Sœur et l'organisation semble en avoir bien besoin car elle a un programme très ambitieux pour les éditions à venir.
On ne va pas fermer ça uniquement pour ceux qui ont fait les 4 trails en France. N'importe qui de France qui veut prendre son billet d'avion et son dossard est le bienvenu. N'importe qui sur Tahiti, Morée pourra participer à un des événements qui sera effectué sur la finale de Morée. La course phare, ce sera à peu près un 110-120 km, mais il y aura aussi à côté un 75 km, il y aura aussi un 50 km, il y aura aussi un 30 km, il y aura aussi un 15 km, il y aura une marche. Bon bref, ça va être un grand événement de tout un week-end, bien évidemment.
Des belles promesses qui s'accompagnent aussi de celles d'un héritage pour Morée, puisque l'organisation veut s'appuyer sur un sentier permanent qui prendrait la forme d'un GR, ces fameux chemins de grande randonnée qui sillonnent la France et les Outre-mer, mais qui sont encore inexistants au Fénois.
Et nous, le but, c'est d'ouvrir un sentier qui fasse le tour de Morée, mais en passant par le sud. Et là, ça n'a pas été ouvert. Il y a une belle partie qui a été ouverte, si tu veux, entre le col de Vaillaré et le col des Trois Cocotiers, par lequel le Xterra 2018 est passé, d'ailleurs. Donc là, nous, à terme, ce serait déjà de réouvrir déjà ce sentier pour l'édition 2024 en novembre, pour pouvoir faire qu'on puisse présenter déjà un sentier différent du Xterra de cette année, bien évidemment. À terme, c'est de le continuer et de faire tout le tour pour aller jusqu'à Apiti, repasser par les Tipaniers, par la montagne et regagner la caldeira.
Voilà, le parcours de ce futur trail serait donc un sentier permanent qui devrait, selon Samuel Zeip, entraîner la création de camping et favoriser les pensions de famille présentes sur le tracé. Reste désormais à convaincre les propriétaires terriens concernés par cette opportunité et d'en faire côté sportif un classique du calendrier.
Et tu as des soirées MMA à nous annoncer.
Oui, un an après le succès du Tahiti Fighting Championship qui avait réuni la foule le 5 mai dernier à Toata, Rayere Dudes remet le couvert et même mieux que ça puisqu'il prévoit 2 soirées cette année. Et la première est prévue le 4 mai à la salle Louis Babo à Itamaï. Alors pour cette première soirée, l'organisateur promet des confrontations qui vont mettre en avant la nouvelle génération et qui, dit-il, vont attirer du monde. Après ce premier rendez-vous, le vainqueur de chaque combat amateur décrochera son ticket pour représenter la Polynésie lors de la seconde soirée. Celle-là, c'est le 20 septembre et les combattants locaux affronteront des champions américains. Une manière de dynamiser la discipline, explique l'organisateur.
On s'est dit qu'il n'y a pas assez de compétition sur le territoire. Après, on aurait aimé faire 3 soirées, mais financièrement, c'est assez difficile de le faire. Du coup, on est parti sur 2 soirées, une en début et une en fin d'année. Comme ça, au moins, ça garde les gars motivés et actifs, quoi.
Et lors de cette première soirée, le 4 mai, 4 combats internationaux, dont 3 chez les pros, sont aussi prévus. Moeho Dimier, Julian Schlouch, Tehana Hana, Bernardino et Teiki Naota sont prévus côté polynésien. L'organisateur, lui, devait affronter un Brésilien, mais ce ne sera finalement pas le cas.
quand je fais des soirées, j'aimerais bien profiter de ces soirées aussi pour moi, que je puisse être actif, tu vois, parce que c'est pas évident. Je suis en formation cette année, du coup, je pourrais pas trop prendre l'avion pour combattre à l'étranger. Du coup, je me suis dit pourquoi pas combattre sur le territoire en même temps, faire ma formation, tu vois. Après, je me suis préparé, j'avais hâte de combattre, mais voilà, on va pas entrer dans les détails. Il y a eu des choses qui ont fait que le combat se fera pas sur cette carte-là, mais j'ai un combat déjà prévu pour septembre sur la carte du TFC.
Voilà, la première soirée du Tahiti Fighting Championship 2024, c'est donc le samedi 4 mai à Fatawa. Début des combats à 16h, toutes les infos à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et puis un mot sur la Tahiti Pro.
Oui, c'est bien sûr du surf. On a appris hier ces wildcards décernés à Kelly Slater et Vahine Fierro en vue de la compétition prévue du 22 au 31 mai à Teahupo'o. En revanche, Kaoli Vast, qui avait pourtant été finaliste de cette étape du Championship Tour en 2022, n'en a pas bénéficié d'une. Il avait pourtant obtenu cette invitation l'année passée. Cette saison, il devra donc pour se qualifier à affronter l'élite du surf local lors des trials prévus les 18 et 19 mai.
Un vent de nouveauté pour Onati.
Nicolas Weinmann, déjà dirigeant des filiales de l'OPT, Pacific Cash Service et Vini Distribution, remplace Christophe Berg comme directeur général de la branche télécom du groupe. Une responsabilité importante puisque la maison mère de Vini, après avoir longtemps tenu à flot les finances de l'OPT, connaît des déficits depuis 2022. Sa mission fixée par la nouvelle PDG Hina Delva est donc avant tout de rétablir l'équilibre de la branche.
Les ministres vont devoir cotiser au régime retraite de la CPS.
Oui, à partir du 1er juin, les membres du gouvernement devront obligatoirement cotiser à la tranche A du régime de base des salariés. Une première dans l'histoire de la Polynésie et qui a particulièrement été évoquée ces dernières années, même promise et débattue sans jamais se concrétiser. Cette fois, c'est la bonne, la cotisation qui pèsera pour environ 3% des indemnités des ministres, s'ajoutera à celle du régime privé par capitalisation auquel les membres du gouvernement et de l'Assemblée sont déjà affiliés.
D'ailleurs, le Conseil des ministres a aussi évoqué l'autorité de la concurrence.
Oui, le pays souhaite transmettre à l'APC une partie de ses missions de régulation du secteur de l'énergie. Un transfert dont les modalités et le calendrier restent flous pour le moment, mais qui aurait pour but d'éviter les conflits d'intérêts et les cumuls de fonctions qui existent du fait des participations du pays dans la TEP ou EDT. Il doit surtout permettre de gagner en expertise, de clarifier l'organisation du secteur et de lutter contre certains rapports de force sur le marché. Aucune précision n'est fournie à ce stade sur le calendrier de ce projet de transfert qui devra, quoi qu'il arrive, faire l'objet d'un texte voté à l'Assemblée.
Et l'Assemblée, justement, qui est en séance plénière en ce moment même.
Oui, la deuxième séance de cette session budgétaire à l'occasion de laquelle les sièges de commission de l'Assemblée ont été réattribués. Alors quelques changements du côté du Tavigny, mais les débats ont surtout porté sur l'approbation du projet de contrat de développement et de transformation 2024-2027. Contrat qui liste pour 21,3 milliards de francs de co-investissement de l'État et du pays. Un chiffre stable d'après le Tavigny et légèrement en baisse d'après le Tapura. Des investissements qui sont censés porter sur les projets relevant de la compétence de la Polynésie. Or l'opposition s'est étonnée de trouver dans le document un article sur le futur radar de Météo France, un instrument très attendu puisque la Polynésie est une des seules collectivités d'outre-mer à ne pas avoir ce genre de technologie qui permet de mieux prévoir la météo et notamment les pluies. Mais c'est un instrument qui, d'après Edouard Fritsch, devrait être entièrement financé par l'État.
Lorsque j'avais rencontré, il n'y a pas très longtemps, c'était en novembre 2020, la nouvelle directrice de Météo France, nous avions bien évoqué ce projet de radar. Mais à aucun moment, cette personne nous a demandé de participer à son financement. Sinon qu'effectivement, que nous devrions mettre à disposition de la météo le site du Mont Marao ainsi que les accès. Mais le financement, il n'en était pas question.
Edouard Fritsch qui note que la participation du pays porte sur 93 millions de francs que l'État aurait pu aisément trouver. Il accuse donc en substance le gouvernement de Moïtei Broserson d'avoir mal négocié. Le président, lui, assume ce choix et rappelle que l'exécutif précédent avait lui aussi participé à des projets d'État.
Peut-être rappeler ici tous les événements climatiques que nous avons subis depuis un an, qui ont coûté au bas mot, et rien que pour les indemnisations des personnes qui ont été touchées, plus de 900 millions. Vous émeuvez pour 93 millions. C'est bien sous votre gouvernance que 309 millions ont été dédiés au pôle de recherche de l'Université de Polynésie française, patrimoine de l'État. Donc voilà, on va mettre ça sur le compte d'une amnésie passagère.
Ambiance donc à l'Assemblée depuis ce matin. A noter que le radar de Météo France devait à l'origine être installé dans la tour du Mont Marao en remplacement du radar aéronautique devenu inutile. Mais le coût de cette installation a visiblement encouragé de nouvelles études de site. Le radar météo pourrait donc être installé à Moorea. Attention à ne pas laisser naître un nouveau mouvement d'opposition de la population. Certains craignent les ondes. Voilà les conseils d'Edouard Fritsch à Moïtei Broserson.
Bonne nouvelle, un objet culturel d'exception fait son grand retour au Fénois.
Oui, la vice-présidente s'est réjouie hier en Conseil des ministres du retour tant attendu du patou de Vaito Otiafahaya, découvert lors de fouilles archéologiques sur l'île de Wahine en 2017. Ce casse-tête en os de baleine avait été acheminé à sa découverte en Nouvelle-Zélande sans jamais revenir depuis sur son territoire d'origine. Selon le gouvernement, le patou, bien plus qu'un simple objet matériel, représente un symbole puissant de l'identité culturelle et de l'engagement envers les générations futures. Il souligne, dit le communiqué, de notre responsabilité collective à préserver et à transmettre notre riche héritage ancestral. Le pays assure poursuivre sa politique de rapatriement des biens culturels.
Et tu nous fais part d'une évolution concernant l'observation des baleines.
Oui, puisque malgré l'existence du code de l'environnement, les mammifères marins en général et donc les baleines en particulier subissent toujours des pressions. La faute, d'après la vice-présidence, à une réglementation qui souffre d'un problème de clarté et d'intelligibilité, mais aussi d'efficacité. De nouvelles règles doivent donc s'appliquer à partir de décembre. Elles n'ont pas été détaillées hier lors de l'annonce en Conseil des ministres, mais on sait qu'elles concernent notamment les conditions d'approche des mammifères marins. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous avec l'actualité locale, c'est le flash de la rédaction et c'est à 16h.
Merci Valdemar, on passe à la météo sur Radio 1.